Bien, bonjour. Donc, pour me présenter rapidement, je suis effectivement actuellement... D'abord, je vous rassure sur la différence de titre. Hein, c'est parce que j'ai un PowerPoint multicarte que j'utilise dans différentes situations. J'ai pas changé de titre, voilà, mais ça reviendra à peu près au même. Donc, je suis maître de conférence actuellement à l'UFM de l'Université de Nantes, membre du Centre de recherche en éducation de Nantes. J'ai été au début de ma carrière pendant 12 ans prof de lycée professionnel lettres histoire en banlieue parisienne. Et puis ensuite, donc, j'avais repris entre-temps des études universitaires et donc j'ai conduit jusqu'au bout une thèse d'histoire de l'éducation qui a donné lieu à la publication d'un livre qui s'appelle Histoire de l'enseignement technique avec Patrice Pelpel qui avait été publié chez Hachette, voilà, c'est ça, et puis qui après était passé chez l'Harmattan, donc qui est toujours disponible, je dis ça au cas où vous seriez intéressé. Je précise que chez l'Harmattan, on ne touche plus rien, donc vous pouvez l'acheter tant que vous voulez, vous n'enrichirez pas ma cagnotte, mais c'est au cas où vous intéresseriez à l'histoire de l'enseignement technique. Puis après, j'ai travaillé sur l'histoire de l'enseignement, sur la formation des adultes un petit peu, et depuis, je me suis tourné plus vers la sociologie, parce que j'ai été recruté en sciences d'éducation, et de fait, je travaille plus sur des dimensions sociologiques, donc j'ai travaillé sur les femmes de chambre de Grand Palace récemment, enfin, mais avant les aventures auxquelles on pense immédiatement quand je parle de ça. Nous le regrettons beaucoup, d'ailleurs, ça aurait sans doute donné plus de dimension de notoriété à notre travail. Je travaille aussi sur la formation des marins-pêcheurs, ce qui est logique quand on habite Nantes. Et donc je conduis parallèlement, et c'est la recherche que je conduis le plus avec mon collègue Pierre-Yves Bernard, donc un travail sur le baccalauréat professionnel en 3 ans. Alors initialement, les conséquences sur le public, les trajectoires des élèves, etc. Et puis... Également, c'est donc une enquête qui associe quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire qu'il y a deux enquêtes par questionnaire auprès de 500 élèves à chaque fois, une fois en seconde en 2009 pour la première année de la généralisation de la réforme, et puis une fois l'an dernier en 2012 pour la même promotion en terminale. Et là, on est en train de terminer par une enquête téléphonique et par mail pour savoir ce que sont devenus ceux de ces élèves qui ont bien voulu nous répondre. Et c'est une enquête donc qui est centrée sur la Loire-Atlantique et la Sarthe. Nous n'avons pas débordé au niveau national. On a un tout petit peu été voir du côté de la région parisienne, mais très peu de temps. C'est lié à notre financement. Et je tiens au passage à remercier l'UNSA, qui est un centre de recherche qui finance pour l'essentiel ce travail. Voilà. Et qui nous laisse toute liberté de dire ce qu'on veut à partir de ce qu'on trouve. Donc, j'appuie là-dessus. Oui, ça marche. Là-dessus, évidemment, je m'adresse à un public informé, donc je pense que tout le monde sait ce que change la réforme. Hein, je l'avais rappelé rapidement. On est passé de 3 à 4 ans. Juste un mot, quand même, pour rappeler quelque chose qui est souvent occulté en ce moment dans les discours sur l'augmentation du nombre de bacheliers professionnels. On voit bien que, dans le système antérieur, j'ai fait exprès de le figurer un petit peu sur l'organigramme, c'était à peu près seulement la moitié des élèves de bac pro au niveau national, hein. Sachant que je vais avoir l'occasion de le dire plusieurs fois et vous le savez comme moi, en fonction des spécialités, il y a de grosses différences, hein. Il y a des poursuites d'études beaucoup plus nombreuses dans certaines spécialités et dans d'autres, enfin il y avait dans d'autres, mais en gros c'était 51-52% des élèves qui continuaient en bac pro après le BEP, alors qu'aujourd'hui évidemment c'est la totalité des élèves, en dehors de ceux qui s'en vont en cours de route, mais c'est la totalité des élèves qui rentrent après la troisième en lycée professionnel qui vont au bac, ce qui a évidemment mécaniquement augmenté le nombre d'élèves qui se présentent au bac, et d'ailleurs je pense aussi explique en partie la baisse de réussite, hein, qui a été enregistrée depuis un an au bac pro, parce que il n'y a plus le tri qui s'opérait en sortie de BEP, qui faisait que les élèves les plus faibles ne se présentaient pas au bac. Bon voilà, pour le reste, je suppose que j'ai rien à vous expliquer là-dessus. Donc je passe à la diapo suivante. Voilà. Donc qui synthétise les résultats. Je vais commencer par là, j'agirai après vers une interprétation, si j'ai le temps, si c'est pas trop long, d'un point de vue plus sociologique. Donc je synthétise les résultats ici de notre première enquête, celle de 2009, donc à partir de 538 élèves interrogés par questionnaire, auxquels nous avons ajouté ensuite, dans les deux années qui ont suivi, des entretiens avec une trentaine d'élèves et une vingtaine d'enseignants et de chefs d'établissement. Donc rapidement, ces données-là, qu'est-ce qu'elles indiquaient ? Bon, évidemment, elles indiquaient ce qui était attendu, d'ailleurs finalement c'est peut-être un peu moins que ce qui était attendu, mais un certain rajeunissement de l'entrée des élèves en bac pro. Donc vous voyez, c'est le tableau du haut. Nous, dans notre enquête, on avait en 2009 32,5% d'élèves de 15 ans contre seulement 30% l'année précédente. Quand c'est les élèves rentraient encore en BEP, c'est surtout là que c'est significatif. Il y avait moins d'élèves redoublants, un peu moins, assez nettement même moins d'élèves redoublants sur deux ans. Hein, j'entends pas de redoublants sur un an, mais de redoublants sur deux ans. Bon, c'était pas évident à interpréter. Je sais que le rectorat nous avait signalé également qu'il y avait un pourcentage d'élèves de 14 ans qui était devenu significatif. Donc je parle là pour l'Académie de Nantes, alors qu'elle était totalement insignifiante auparavant. Donc une tendance au rajeunissement, j'y reviendrai, hein, mais qui est quand même pas très marquée, mais enfin qui était perceptible et qui semble se confirmer autant que j'ai pu le voir sur les statistiques nationales. Alors par ailleurs, population majoritairement populaire, hein, ça y a rien de nouveau là-dessus. Les lycées professionnels accueillent majoritairement des enfants d'ouvriers. Alors là, il y a des petites nuances sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que ça n'a pas un grand intérêt, qui est lié au fait qu'on avait interrogé les pères d'abord, puis ensuite on a pris la profession des pères, puis ensuite père et mère, et qu'on arrivait à des petites différences par rapport au niveau national qui sont probablement liées, autant qu'on a pu en juger, au fait que dans l'Académie de Nantes, c'est-à-dire les départements de Vendée, de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne, la classe ouvrière était un peu plus était un peu plus masculinisée qu'ailleurs. C'est un peu difficile d'interpréter ça. Je ne sais pas si on a le temps, éventuellement j'en reparlerai. Mais enfin voilà, bon, c'était un petit biais, mais sans grande importance. Globalement, on a, comme au niveau national, une très forte proportion d'enfants d'ouvriers et d'enfants d'inactifs, qui comprend les chômeurs, en lycée professionnel, beaucoup plus que dans les lycées généraux et technologiques. Et inversement, beaucoup moins d'enfants de cadre. Bon, c'est quelque chose qui est connu. J'y reviendrai au niveau des interprétations, mais je suppose que ça ne vous surprend pas. Alors en revanche, voilà, c'était le cœur de notre enquête, était là, et là on a été, je l'avoue, un petit peu surpris par les résultats. Donc nous demandions, je précise que nous faisions passer les questionnaires en classe, hein, pour s'assurer d'avoir d'abord 100% de retour, ce qui est rare pour un sociologue, et puis en même temps d'expliquer le fonctionnement, de bien expliquer aux élèves, etc., de ce qu'il fallait répondre et comment, pour éviter qu'ils se trompent sur les items. Donc c'est un questionnaire qui est viable, qui est sur lequel il y a assez peu de biais d'erreur. Donc nous leur demandions comment ils avaient procédé à leur orientation. Donc ce qu'ils avaient demandé, on a cherché à savoir le nombre d'élèves qui avaient demandé le lycée professionnel en premier choix. On leur a demandé leur premier choix et donc le pourcentage de ceux qui l'avaient demandé en premier choix. Et puis ensuite une enquête de satisfaction, sachant que nous posions les questions au mois d'octobre. Hein. Enfin, ça s'est fait fin octobre, donc au début quand même de la formation. Donc les résultats, je dis surprenants, par rapport à ce qu'est d'habitude le discours dominant de la sociologie de l'éducation sur lycée professionnel. Vous connaissez, je suppose, à peu près tous et toutes l'expression, l'orientation dite par défaut. Hein, on arrive en lycée professionnel que si on a échoué à être orienté en lycée général, ou en tout cas, tendanciellement, c'est la dominante. Donc vous entendrez demain Aziz Djellab, je crois, qui a écrit un livre assez fondamental sur la sociologie des lycées professionnels et qui, lui, parle d'un sentiment de chute, en général, chez les élèves de lycées professionnels qui ont l'impression d'avoir quelque part échoué à l'enseignement général plutôt que d'avoir obtenu l'orientation qu'ils demandaient. Alors, donc, bon, voilà, on s'attendait donc à des chiffres un peu différents de ceux-là, puisque on arrive à avoir quand même 87% des élèves, ce qui est quand même une majorité considérable, qui ont demandé une orientation vers le professionnel, qui se décomposait donc en 71% vers les lycées professionnels et 16% vers l'apprentissage. Alors, sachant que notre région est une région de fort développement de l'apprentissage, traditionnellement, et puis je reviendrai aussi sur d'autres aspects qui expliquent cette demande assez forte vers l'apprentissage, mais en tout cas, 87% d'élèves qui disaient, dès le premier choix, avoir demandé l'enseignement professionnel ou l'apprentissage. Et ensuite, 81% qui s'estimaient satisfaits, et ce 81%, pardon, comprenait presque la moitié des gens qui se disaient très satisfaits. 42% des élèves se disaient très satisfaits de leur orientation, ce qui là aussi est un peu surprenant par rapport à ce qu'on dit d'habitude de ces questions-là. Seulement 14% étaient peu ou pas satisfaits de l'orientation ALP, sachant que parmi eux, il y avait des gens qui n'étaient pas satisfaits parce qu'ils n'avaient pas obtenu l'orientation en apprentissage et non pas l'orientation en enseignement général. Donc quelque chose d'assez massif qui nous a interpellés. Je reviendrai après sur les interprétations en termes sociologiques qu'on peut faire de ça, parce qu'il faut se méfier des apparences. Néanmoins, c'était quelque chose quand même qui nous a, je l'avoue, un peu surpris, même si moi, connaissant bien le milieu de l'enseignement professionnel, l'histoire, etc., j'avais fait l'hypothèse qu'il y avait des chances que la réforme en 3 ans ait des effets positifs sur l'orientation, pour des raisons que je vais sur lesquelles je vais revenir. Mais enfin, quand même, voilà, on était un peu surpris par ces résultats. Donc du coup, le but de l'enquête après, par entretien cette fois, donc qualitatif, donc sont des entretiens qu'on appelle semi-directifs, où on reste facilement une heure avec les gens, enfin que les élèves, ça dure rarement une heure, parce qu'ils sont moins bavards que les enseignants, avec les enseignants, ça peut très largement déborder l'heure, avec les élèves, c'est plutôt une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, mais enfin dans lequel on essaye vraiment d'écouter les personnes, de les faire parler, de les amener à aller un peu plus dans l'intimité de leur conscience pour comprendre les déterminants de leurs actions. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer là. Alors, j'ai volontairement... ça fait un effet bizarre. Je ne sais pas si vous avez la même chose à l'écran. Oui, c'est curieux. Ah, j'ai appuyé sur quelque chose auquel il ne fallait pas que j'appuie. Je ne vois plus mon écran. C'est un peu ennuyeux. Alors bon, je ne pensais pas que ça... Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je crains que ce soit la transposition d'OpenOffice... Non, alors là, il ne fallait pas que je fasse ça. Il faut que je revienne en arrière. D'OpenOffice en Word, c'est pas impossible. Bon. Alors bref, s'il s'agit de... Je sais pas comment je peux... Parce qu'en plus, j'ai la même défaut à l'écran et j'ai pas mémorisé par cœur ce que disait Zeb. Donc j'ai pris des extraits de ces entretiens qui, on va dire, synthétisent les principaux éléments qui ressortaient de ces entretiens de ces élèves à propos de leurs sentiments par rapport à l'école, par rapport au lycée professionnel, par rapport à la scolarité en général, je dirais aussi leur rapport au savoir et leur choix d'orientation. Donc en gros, la première citation, je vais le faire comme ça, hein, vous envoyez la fin. En gros, il dit que la scolarité s'était toujours mal passée pour lui, c'est un élève qui a échoué dès le primaire. Je me levais le matin pour me dire, mais en fait, c'est une fille, pardon, qu'est-ce que je fous en cours ? Bien voilà. Le deuxième dit, si je me souviens bien, je sais plus s'il dit c'est pas l'horreur ou c'est pas l'enfer, quelque chose pour moi et mes parents dès le début. Alors c'est celui-là qui avait redoublé dans le primaire. Écouter quelqu'un parler pendant 8 heures, je pouvais pas. Donc là, on avait 2 éléments qui ressortent de manière, alors je tiens à le dire, sur 30 entretiens, qui quand même est assez représentatif pour de la socio-qualitative, 30 entretiens, c'est pas mal. On avait évidemment essayé de faire un panel des élèves, donc il y avait des élèves qui avaient par doublé, qui étaient plutôt des élèves moyens, voire presque bons au collège, des élèves qui étaient très faibles, qui avaient redoublé 2 fois, etc. On avait un panel assez varié, des garçons, des filles, des élèves en industriel, en tertiaire, etc. Et il n'y avait pas un élève qui ne disait pas ça, c'est-à-dire, premièrement... ce que j'apprends en cours, ça n'a pas de sens pour moi, surtout depuis le collège. Je m'ennuie, ça n'a pas d'intérêt, et particulièrement l'enseignement général, avec parfois une discipline qui surnage. Certains disaient, ah, il y avait l'anglais quand même, ou bien il y avait l'histoire, ou bien il y avait les maths, mais globalement, un sentiment de perte de sens total par rapport à l'enseignement général. Ça m'a pas du tout surpris. J'ai fait 12 années de lycée professionnel en lettres-histoire, en banlieue parisienne. Par ailleurs, je fais de la sociologie de l'éducation, donc bon, j'étais pas surprise, on s'y attendait, hein, une forme d'inappétence scolaire à l'égard de l'enseignement général. Bien. Ce qui m'a un peu plus surpris et qui était totalement unanime aussi, alors quand je dis unanime, ça veut dire que tous les élèves, quel que soit leur résultat scolaire au collège, y compris parmi eux des élèves qui avaient été admis a passé en seconde générale et qui avait refusé, qui avait préféré prendre l'enseignement général. Tous, donc, se plaignaient de la contrainte corporelle, de la contrainte sur le corps. Et je viens de relire un bouquin d'Hugo Paletta, là, qui vient de faire une sociologie lui aussi de l'enseignement professionnel, qui dit la même chose, hein. Cette contrainte sur le corps, cette obligation à ne pas bouger, cette obligation à ne pas être dans l'action. Et beaucoup d'élèves, d'ailleurs, quand ils disaient qu'ils étaient heureux de l'enseignement professionnel, disaient souvent, parce que là, enfin, on agit, on est dans l'acte de produire, ou dans l'acte, y compris de produire un service, d'ailleurs. Je l'ai pas mis, mais je me souviens d'une élève qui nous disait avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle était très contente parce que elle avait fait un stage, elle était caissière dans une grande surface, et là, enfin, elle était en contact avec la vie. C'était très très net, hein. Ces deux demandes-là, à la fois la perte de sens par rapport à ce qui est enseigné en enseignement général au collège, pas à l'école primaire, hein, au collège, c'est important, et puis cette dimension de contrainte physique, d'absence d'action, dont tous se plaignaient, et qui évidemment explique une certaine forme de satisfaction quand ils arrivent au lycée professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, qui est, encore une fois, autant la perte de sens par rapport au contenu d'enseignement général m'a pas surpris, autant la contrainte physique de la forme scolaire, pour parler comme les sociologues, nous a un peu surprise dans son unanimité, on va dire. Alors ensuite, troisième élément, c'est ce qu'on voit le moins bien, c'est un élève qui dit « Mes parents voulaient... » Enfin, « Moi, je voulais aller en CAP, mais mes parents m'ont dit non, on te propose un bac pro, tu prends le bac pro. » Donc là, troisième élément très net, là on rejoint ce que dit Tristan Poulaouec sur l'évolution des classes populaires, qu'on peut discuter d'ailleurs parfois, j'adhère globalement à ça, qui est qu'aujourd'hui toute la population, y compris les milieux sociaux qui disposent du capital culturel, pour parler comme les sociologues, encore une fois, le plus faible, veulent que leurs enfants poursuivent les études le plus loin possible. Il n'y a plus cette réticence qu'il pouvait y avoir autrefois dans les familles ouvrières, notamment, à aller vers l'enseignement général, qui pouvait être perçu comme un peu l'enseignement des dominants, l'enseignement des intellectuels, enfin, bon, ça, il y avait une certaine forme d'hostilité. On la retrouve plus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une demande de toutes les familles qui veulent que leurs enfants aillent le plus loin possible dans les études, et ça, on l'a retrouvé plusieurs fois. Ça n'était pas unanime parce qu'il y avait des élèves qui étaient d'accord d'entrer pour aller en bac pro, mais ceux qui étaient tellement réticents à l'enseignement qu'ils préféraient s'orienter vers un CAP en 2 ans, souvent rencontraient l'opposition de leurs parents qui leur disaient non, on a eu plusieurs filles qui nous ont dit ça aussi, non, tu dois aller en bac pro, on te propose un bac pro. Et enfin, dernière tendance dominante de ces entretiens, c'est la phrase que vous ne lisez pas non plus en dessous, c'est la phrase d'une jeune fille qui nous dit « Maintenant, le bac pro, c'est un bac comme les autres. On va pouvoir continuer nos études comme les autres. Il n'y a plus de... » Alors, elle n'employait pas ce mot-là, mais il n'y a plus de stigmatisation du lycée professionnel par rapport aux filières générales. Et ça aussi, hein, c'est quelque chose qui ressortait constamment des élèves. Je vais revenir sur l'interprétation, mais en gros, en première lecture, on peut dire que l'effet d'annonce auprès des familles a parfaitement fonctionné. C'est-à-dire le fait de dire il y a une égalité symbolique de la filière professionnelle par rapport à la filière générale et technologique a fonctionné comme un effet d'attraction. Je précise même pour l'anecdote, parce qu'elle est amusante, qu'une des élèves que nous avons interrogées nous a expliqué qu'elle avait été informée de cette réforme quand elle était au collège, donc un an ou 2 ans avant, un an, puisque là, je crois que les mouvements de grève doivent dater de 2008, des collègues qui résistaient à la réforme, qu'elle avait été informée par ces grèves, parce qu'on a, vous savez qu'un des rares moments où on parle des lycées professionnels, c'est quand ça va très mal, hein, le reste du temps, on n'en parle pas, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais un peu agacé par l'éditorial du Monde qui vous a été distribué, la grande misère des bacs pro. Je leur avais répondu, mais ils ont publié que sur le site internet, pas dans le journal, ma réponse. Donc voilà, on avait parlé beaucoup du mouvement de grève des profs de LP et des PLP qui avaient lutté contre la réforme, et donc elle avait été informée par là, et elle disait « Je les comprends pas, les profs, c'est vachement bien cette réforme, comment ça se fait qu'ils étaient contre ?» Donc il y a un effet assez amusant, c'est la grève qui l'informait de la réforme, et en même temps elle était pas du tout d'accord. Donc voilà, et enfin, c'est sans doute le chiffre le plus intéressant, évidemment, celui que j'ai mis en gros en bas, mais 60% d'entre eux, ce qui est quand même beaucoup, annonçaient dès l'entrée en seconde leur projet très construit et très affirmé de continuer après le bac pro, et presque tous en BTS. Il n'y avait pas tellement d'autres, il y avait quelques autres projets, mais statistiquement peu signifiants. Je veux faire un BTS. Alors, les raisons qui étaient présentées sont intéressantes, mais d'abord, ce qui est intéressant de noter, c'est évidemment l'apparente contradiction entre le fait de se déclarer totalement lassé de la scolarité, hein, de se plaindre du fait que l'enseignement général, l'école, tout ça, c'est contraignant, c'est ennuyeux, ça n'a pas de sens, etc. Et en même temps, les mêmes élèves disant « mais je vais continuer en BTS ». J'ai bien l'intention de continuer mes études, 60% d'entre eux en tout cas. Donc je reviendrai après sur les interprétations, mais je vous fais pour le moment le constat et les questions que peut poser ce type d'enquête. Alors ensuite, nous avons interrogé, si nous étions trois, parce qu'on a fait travailler aussi grâce aux subsides de l'UNSA, on a pu faire travailler de jeunes doctorantes avec nous. Donc j'ai interrogé les collègues. Alors les collègues, évidemment, c'est un tout autre discours. Vous voyez que je dis collègues encore, j'ai quitté les LP il y a presque 30 ans maintenant, mais je crois que, comme je dis souvent, PLP un jour, PLP toujours. Surtout quand on en garde un souvenir finalement pas trop triste. Donc voilà, que disent les collègues? D'abord, vous ne serez pas surpris, j'imagine, si vous connaissez les circonstances, une réforme qui a été imposée très brutalement, très rapidement. Je vous rappelle que la décision est prise en 2007, fin 2007, annoncée en 2008 et appliquée en 2009. Alors, vous savez sans doute que l'expérimentation, elle, date de 2001, hein, et qu'elle avait été initiée par Jacques Lang et surtout Jean-Luc Mélenchon. En réponse à la demande de l'Union des industries métallurgiques et minières. Je dis pas ça pour embêter Mélenchon, mais c'était bien dans ces circonstances-là que ça avait été initié. Et il y avait eu des rapports entre-temps, notamment un rapport d'inspection générale en 2005, qui était assez réticent à la généralisation. D'une manière générale, d'ailleurs là je n'en ai pas parlé, mais il semble bien que les corps d'inspection n'étaient pas très très enthousiastes à l'idée d'appliquer aussi rapidement et dans toutes les disciplines, dans tous les établissements, cette réforme. Donc déjà une forte réticence, hein, avec parfois des mouvements assez... les chefs d'établissement nous ont dit qu'ils avaient eu parfois affaire à une résistance forte et les inspecteurs ont souvent été très mal accueillis quand ils sont venus annoncer la réforme. Alors deuxième constat... Le poids des contraintes que provoque cette réforme sur les conditions de travail des LP. Alors contraintes objectives évidemment, hein, mais vécues globalement très mal. Alors là, j'ai pris l'exemple de la question du CCF. Dans les documents qui vous sont distribués, j'ai choisi la question de la mise en œuvre du suivi individualisé. Alors je précise que ce qui a pesé sur les conditions de travail, donc subjectives et sans doute objectives. Des PLP, c'est beaucoup plus cette transformation qu'il aurait demandé à la fois, il y en a trois en fait, hein, c'est d'une part l'organisation des CCF en première tout en continuant le programme, hein, qui pèse très lourdement sur le qui est très chronophage et qui pèse très lourdement sur leur travail, c'est l'organisation du suivi individualisé qui prend des formes, vous le verrez dans les documents, extrêmement variables selon les établissements, les équilibres entre les disciplines enseignées, etc., et qui donne le sentiment un peu partout d'une improvisation qui est souvent difficile à gérer, et puis bien sûr les stages. Alors là, je n'ai pas mis d'exemple, mais le fait d'envoyer les élèves de seconde en stage pose évidemment des problèmes considérables aux collègues, surtout quand on n'est pas dans le tertiaire, qu'on est dans les disciplines industrielles, où les élèves de moins de 16 ans n'ont pas le droit d'utiliser un certain nombre d'outils, de matériel, etc. Évidemment, c'est assez difficile d'apprendre la cuisine sans avoir le droit d'utiliser un couteau. Et puis des élèves très jeunes, hein, qui ont des comportements d'enfants jeunes, ou presque, enfin, en tout cas de très jeunes adolescents sur le milieu du travail, avec des employeurs qui, quand on leur parlait de bac pro l'année précédente, étaient habitués à voir des élèves qui avaient déjà un BEP, qui étaient donc déjà fortement dégrossis, qui avaient 17, 18 ans, etc. Donc là, la gestion des stages a été problématique. Je me souviens d'un collègue qui nous a raconté que il était dans le métier du bâtiment, je crois que c'est des maçons ou plombiers, et il avait envoyé un jeune élève en stage, donc dès le mois de novembre, je crois, et l'employeur a retrouvé le gamin qui dormait dans une baignoire après le déjeuner. Ça s'est évidemment mal passé, etc. Il illustrait ça pour dire, voilà, avec des jeunes élèves, ça pose vraiment des problèmes auxquels nous n'étions pas habitués avec des élèves qui avaient déjà le BEP. Donc c'est de ça que parlent les collègues, pas du tout de la réduction du programme de 4 à 3 ans. Aucun collègue ne s'est plaint à aucun moment d'avoir à faire, lui, en tant qu'enseignant, d'avoir à réduire sa progression de 4 à 3 ans. Ils s'en plaignent pour les élèves en difficulté en disant ça rend les choses plus difficiles. Mais ça n'a pas été vécu comme une contrainte. La contrainte, elle est essentiellement vécue au niveau de l'organisation du travail. Et puis, deuxième partie de la réaction des collègues, qui est celle qui, évidemment, est la plus intéressante pour un sociologue, c'est celle qui touche, je vais dire, à l'identité des enseignants. Alors là, je ne sais pas si je vais reprendre ça plus tard dans l'interprétation, donc je donne quelques points là-dessus. Les gens qui travaillent sur l'identité professionnelle des PLP, essentiellement Aziz Gelab, Françoise Lantôme, etc., deux ou trois chercheurs qui se sont intéressés à cette question, moi aussi un tout petit peu, constatent que ce qui constitue le fondement identitaire des profs de lycée professionnel, ce en quoi ils se reconnaissent presque toujours, et d'ailleurs je me suis retrouvé là-dedans hein, quand j'ai fait ces enquêtes, c'est évidemment le fait d'associer étroitement la fonction d'éducateur à la fonction d'enseignant, et de se vivre comme des... Je n'ai pas mis d'ailleurs d'extrait là-dessus, mais il y en a assez fort. Se vivre comme des enseignants qui vont sortir des jeunes en difficulté de leurs difficultés, qui vont avec une empathie très forte pour la difficulté des élèves, même si par ailleurs ces élèves sont jugés incivils, exaspérants, pénibles, feignants, etc. Hein, il y a forcément un discours de déploration qui est lié à l'affrontement quotidien avec des élèves qui sont, vous le savez, pas toujours très faciles, mais en même temps une très grande empathie pour leurs difficultés sociales. Et l'idée que le rôle du PLP, et ça Gelab le montre très bien, c'est quand même fondamentalement d'apporter une seconde chance, de remédier à cet échec. Et donc là, la réforme, visiblement, les confronte à un conflit identitaire, parce que le fait de conduire tous les élèves au bac pro, lesquels élèves, vous l'avez vu, ont pour 60% d'entre eux le projet d'aller au BTS, c'est évidemment valorisant. C'est ce que dit ce prof de mécanique moto. Alors, je précise que la mécanique moto accueille plutôt de bons élèves, hein, parce que c'est très demandé. Il n'y a qu'un seul établissement qui le fait, je crois, dans notre région, ou presque. Donc, forcément, les élèves sont sélectionnés. Alors, je précise, je pense que vous ne serez pas surpris, il n'y a pas de filles. Il n'y a que des motards pour aller vite, ou des propriétaires de scooters qui passent déjà leur vie à travailler dessus, bon, etc. Donc des élèves très motivés. Et nous dit-il, donc je crois qu'au niveau des poursuites d'études, pour ceux qui en ont les moyens, ça devient possible et non pas exceptionnel. Donc beaucoup de PLP nous ont dit, bon, évidemment, il y a une satisfaction à se dire, on va porter au BTS des proportions d'élèves plus importantes qu'avant. Mais en même temps, 4 à 3 ans, pour les élèves qui rentrent chez nous en difficulté, il y en a toujours une forte proportion évidemment, ça va être plus dur. On a des élèves qui sont en grande difficulté de compréhension et qui malheureusement vont vers un échec. Moi je souffre aussi de voir qu'ils vont vers l'échec, etc. Je souffre, hein, l'empathie pour les élèves. Et donc là, voilà quelque chose de nouveau qui travaille aussi le travail des collègues, les conditions de travail des collègues, c'est qu'il y a une forme d'hétérogénéité des publics qui apparaît avec la réforme. Une petite minorité dans certaines spécialités, parfois une proportion plus significative, je ne peux pas avancer de chiffres parce qu'on c'est trop difficile à faire, mais enfin quand même, une proportion significative globalement d'élèves attirés par la réforme du bac pro en 3 ans, je reviendrai sur l'interprétation après, mais bon, des élèves entre guillemets meilleurs qu'avant arrivent au LP. Je dirais, pour aller vite, probablement, particulièrement dans les filières industrielles, des élèves qui auraient constitué auparavant la clientèle naturelle des bacs STI. Je dois le dire, d'ailleurs tout de suite, j'anticipe un peu sur ce que je dirai après, mais je ne veux pas non plus vous épuiser avec une conférence trop longue. On a eu certains élèves qui nous ont explicitement dit qu'ils étaient là par stratégie. Alors, est-ce qu'on parle de stratégie ou de tactique? Ça, c'est un débat de sociologue. Mais en tout cas, qui stratégiquement faisaient le choix du lycée professionnel pour éviter la seconde générale et technologique. Et de toute façon, ils pensaient qu'ils allaient aller plus vite et plus facilement en BTS qu'en passant par la filière seconde générale techno-STI qu'ils connaissaient. Qui connaissait très bien, qui nous disait, j'ai des amis qui ont fait ça, il y en a un qui m'a dit ça, j'ai des amis qui ont fait ça, oh là là, il y a trop de maths, c'est trop dur, moi je vais par là, je sais où je vais, j'ai repéré le BTS, où je vais aller, etc. Donc il y a une petite, alors je ne peux pas vous dire quelle proportion, mais il y a, qui est variable, très certainement, selon les disciplines, il y a une proportion significative de jeunes qui choisissent aujourd'hui le LP dans cette idée de contourner la difficulté, si vous voulez. C'est pas nouveau, hein. Ça existait déjà autrefois dans certains BEP, mais c'était beaucoup, je pense, plus rare. Donc, du coup, hétérogénéité des publics, nouveauté pour les collègues de lycée professionnel, dans la même classe, des élèves qui suivent très facilement le programme et d'autres qui sont les plus faibles des lycées professionnels et qui ont redoublé deux fois, une fois, etc. et qui sont en grande difficulté. Et donc, d'où cette phrase de ce collègue de prof de mécanique moto qui nous dit maintenant, bah, si c'est faire du bien aux, entre guillemets, aux bons élèves en faisant du mal aux élèves qui sont en difficulté, je veux pas trancher, je demande des moyens, suivi individualisé, etc. Mais on voit bien, hein, à quel point là, du côté de l'identité professionnelle des enseignants, il y a une nouvelle douleur qui apparaît, c'est-à-dire le fait d'avoir à choisir la tentation entre est-ce que je travaille pour conduire les meilleurs ou est-ce que je prends du temps et je consacre du temps aux plus faibles, est-ce que je peux faire les deux, comment je fais, etc. Alors le questionnement est-ce que je peux faire les deux et comment je m'occupe des plus faibles, évidemment, est un questionnement qui traduit l'identité professionnelle des PLP. Si vous interrogez un prof de seconde d'un lycée de centre-ville, il est évident que vous n'entendrez jamais un tel questionnement. Il se pose pas de questions, il travaille pour les bons, les autres se débrouillent. Là, c'est pas la même logique. On est dans une logique identitaire très particulière qui est celle des profs de lycée professionnel. Alors je vous dis pas qu'il n'existe pas des collègues de lycée professionnel qui résonnent comme un prof de lycée de centre-ville, mais ils sont pas majoritaires. Globalement, la tendance va autour de ça. Voilà, pour les données globales de cette enquête, à la fois statistique et qualitative. Alors, dernière enquête, c'est celle qui est en cours, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est les résultats de notre questionnaire. Alors, ça n'est pas un suivi de cohorte, c'est-à-dire que statistiquement, compte tenu de nos moyens, nous n'avions pas les moyens de suivre vraiment les élèves. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous sommes retournés à peu près dans les mêmes établissements, mais il y en a trois qui n'ont pas voulu qu'on revienne, donc on en a pris d'autres, parce qu'on a été coincé par le fait que l'an dernier, le deuxième budget de l'UNSA nous est arrivé tardivement, donc on a pu démarrer l'enquête qu'au mois d'avril. Donc vous voyez, avril, terminal, bac, enfin bon, il y a des établissements, des chefs d'établissement qui nous ont dit non, ne venez pas semer la pagaille dans nos difficultés organisationnelles déjà très lourdes. Donc on n'a pas pu revenir dans tous les établissements. Quand on a pu, on est revu dans les mêmes classes, mais ces classes avaient évolué, j'y reviendrai. Donc voilà, c'est la même promotion d'élèves, mais on ne peut pas affirmer qu'il y a une homogénéité parfaite entre les élèves de seconde que nous avions interrogés en 2009 et les élèves de terminale que nous interrogeons à la fin de l'année 2012. Alors là, nous les avons interrogés exclusivement sur leur projet, où en était leur projet d'études. Et nous sommes en train de terminer l'enquête en ce moment, une enquête par téléphone et par mail pour savoir où ils en sont vraiment de ces projets. Mais là, j'ai aucun résultat. Nous aurons évidemment moins de réponses que là les 532 questionnaires que nous avons pu faire passer. Je pense qu'on va avoir à peu près entre 130 et 150 réponses, ce qui est intéressant, mais qui, niveau statistique, évidemment, nous obligera à prendre des précautions. Alors, poursuite d'études, projet maintenu, 65%. Donc, plus d'élèves arrivés en terminale qui ont leur projet de poursuite d'études qu'il y en avait dans la même promotion en 3 ans avant, en seconde. Alors attention à ne pas traduire ça trop vite par une augmentation. Nous pensons plutôt que le fait qu'il y a une forte déperdition d'effectifs en fin de seconde, et semble-t-il encore en fin de première, en fin de seconde, on l'a vérifié dans nos établissements, en fin de première, je me base sur les stats de l'ADEP, il est probable qu'il y a un décrochage assez fort d'élèves en cours de route, que certains s'arrêtent au BEP-CAP. Donc ceux qui restent, étant probablement les meilleurs élèves scolairement parlant, sont en même temps ceux qui ont le projet d'études le plus affirmé et avec la plus de chances de réussir. Donc du coup, mécaniquement, la proportion augmente. Donc je serais plus prudent là-dessus, je dirais probablement il y a un maintien de la même proportion. Alors ça se répartit de cette manière-là, ça c'est intéressant. On retrouve d'ailleurs un peu les données de début. Parmi tous ces élèves, 33,5% donc maintiennent un projet en formation initiale. Alors dont, c'est-à-dire à l'intérieur de ces 33,5%, 64% en BTS, 10% en mention complémentaire, 18% seulement fac ou IUT. Donc là, je suis très formel, c'est pour ça que l'article du Monde consacré aux élèves de bac pro qui échouent à l'université, qui était présenté comme une catastrophe, était une très mauvaise interprétation. Les bac pro, nous le savons, ne sont pas faits pour continuer des études universitaires générales, et les élèves en sont parfaitement conscients. C'est-à-dire que on a trouvé dans les 500 élèves interrogés, il y en a deux, un qui voulait faire une licence de philo et un autre une licence d'histoire, d'ailleurs dans les spécialités du type SEN, etc., les spécialités les plus sélectives, mais c'est tout. Tous les autres veulent aller en BTS, en IUT, en alternance. Donc quand ils vont à la fac, c'est parce que ils n'ont pas trouvé de place en BTS. C'est la motivation principale. Donc c'est évidemment pas étonnant qu'ils échouent. Et donc il faut se méfier des interprétations misérabilistes sur le LP, etc. Et également d'ailleurs sur le fonctionnement de l'université, même si je suis bien placé pour savoir, je suis enregistré, tant pis, je le dis, qu'on fait pas beaucoup d'efforts à l'université pour accueillir les élèves les étudiants qui ont quelques difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, bref. Donc voilà, 33% en formation initiale, 25%, le quart, demande une formation en apprentissage. Donc là, il y a un renforcement très, très marqué de la formation en apprentissage, et là, donc, dont 66% en BTS et les autres dans des formations parallèles. Et puis 6% traditionnellement des élèves qui font un bac, n'importe lequel, parce qu'ils veulent devenir gendarme, pompier ou militaire. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement. C'est d'ailleurs souvent de bons élèves, hein. C'est pas forcément des élèves qui traitent les études de manière superficielle, mais leur projet est clairement orienté vers ce type d'orientation. Donc voilà, le constat est clair. Au bout de 3 ans, et je pense que ce constat-là, il est valable au niveau national. Les élèves arrivent en bac pro désormais avec un projet d'études pour une proportion très significative d'entre eux. Ils le conservent. Je précise que, d'ailleurs, souvent, ils l'affinent. C'est-à-dire que dans les discussions déjà, les entretiens que nous avons eus avec les élèves en fin de première, beaucoup d'élèves avaient, au contact des enseignants, concrétiser ou donner un contenu plus précis à leur formation. Visiblement, les enseignants informent, les PLP informent et disent, ben là, après, il y a tel BTS, il y a telle formation complémentaire, etc. Et souvent, le projet devient plus rationnel, on va dire, que ce qu'il était au départ. Bon, voilà. Alors maintenant, interprétation au sens sociologique du terme. Conclusion intermédiaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement de ces enquêtes, en gros, pour synthétiser, et puis après j'essaierai de vous dire un peu en termes d'interprétation sociologique, même si je pense que c'est pas forcément ce qui vous passionne le plus aujourd'hui, mais ce qu'on peut dire. Alors d'abord, effectivement, confirmation du rajeunissement, puisque une enquête de l'ADEP dit que entre 2005 et 2011, on serait passé de 26% des jeunes de 15 ans en seconde pro à 47%. Alors attention, n'allons pas trop vite dans l'analyse de ce rajeunissement. Il est tout à fait possible que ce soit aussi une conséquence de la diminution du redoublement au collège, laquelle diminution, comme vous le savez, est beaucoup plus le résultat d'une politique volontariste que le résultat d'une amélioration soudaine du niveau des élèves. Voilà. Donc, mais globalement, ça veut quand même dire que concrètement, il y a plus d'élèves jeunes aujourd'hui. Sans doute, je vous dis, en partie en raison de la baisse des redoublements, mais en partie aussi, je pense, je vais y revenir, du fait qu'un certain nombre d'élèves choisissent désormais l'ELP réellement comme un premier choix d'orientation. Donc les projets de poursuite d'études augmentent, mais donc je l'ai dit, il y a des partitions d'effectifs, donc probable que c'est plus une stabilité. Alors ça c'est important, ces projets sont majoritairement orientés vers une poursuite de formation professionnelle. Donc encore une fois, les discours qui stigmatisent l'entrée des élèves de bac professionnel à l'université ne doivent pas se tromper. Bien sûr, c'est sans doute l'échec qui était souvent au bout du chemin, mais encore une fois, il ne s'agit pas, parce que là-dessus, il y a une question d'interprétation importante au niveau sociologique, puisque Stéphane Beau, notamment, avait dit qu'il y avait là, c'était le résultat d'une sorte de tromperie de leurre de l'institution qui fait croire aux élèves que, non, hein, il est clair que les élèves qui rentrent en bac pro, quand ils ont des projets d'études, ce sont des projets d'études professionnels. Technologique à la rigueur, professionnelle. Il continue dans la branche. Alors là-dessus, j'ajoute quelques éléments d'info. En général, c'est très rationalisé, c'est-à-dire que ils le disent soit parce qu'ils pensent qu'ils peuvent, il y en a qui nous le disaient, espérer une promotion, alors que s'ils s'arrêtent au bac pro, ils n'auront pas dans le statut qu'ils occuperont une promotion. Autrement dit, ils sont conscients que le BTS ne les conduit pas nécessairement à un emploi c'est-à-dire qu'ils sont très conscients sur la réalité du marché de l'emploi, ne les conduit pas nécessairement à un emploi de cadre intermédiaire. Mais certains disent, avec ça, je pourrais progresser. D'autres disent, je veux m'installer à mon compte. Ça, c'est très très fort, hein, cette demande-là, dans certains métiers industriels notamment, mais aussi chez les esthéticiennes, hein, ou chez tous les métiers, les coiffeuses, tous les métiers qui permettent ça. Je veux m'installer à mon compte, le BTS va m'aider à faire ça. Notamment, je précise là-dessus un changement assez amusant, qui m'a, moi, beaucoup surpris, parce que j'avais travaillé essentiellement dans un LP du bâtiment en banlieue parisienne, et il y avait notamment une spécialité peinture-revêtement qui était entièrement masculine. Et là, je rentre dans des classes de peinture-revêtement où je vois plus de 50% de filles. Donc, évidemment, stéréotype sexuel des métiers, enfin, je me dis quelle est cette révolution, hein, c'est tout à fait étonnant. Et j'apprends de la bouche des enseignants que c'est l'effet... émission décoration sur M6, ces filles, et ça a été vérifié dans les entretiens, ces filles veulent rentrer dans les métiers de la décoration intérieure, Et alors là aussi, croire que c'est un leurre, vous voyez, souvent il y a une interprétation là encore de la, d'une certaine sociologie qui traditionnellement dit c'est un leurre, elles sont dominées, donc elles se laissent tromper. Pas du tout. Elles savent qu'elles vont faire les métiers du bâtiment, donc elles vont travailler dehors dans des conditions difficiles, qu'elles vont faire du décollage de papier peint, du ravalement de façade, etc. Elles le font. Les profs me disent, alors là, stéréotype sexuel, elles sont plus soigneuses, elles sont plus assidues, elles sont plus sages, les patrons sont contents, etc. Là, on retrouve tous les stéréotypes sur le comportement féminin. Mais elles savent, et elles ont déjà repéré, qu'elles feront ensuite une formation complémentaire de ceci, qu'elles iront dans tel établissement. Certaines, d'ailleurs, auraient pu y aller, mais les parents, là, en l'occurrence, il se trouve que cette formation est à Saint-Nazaire. Nantes, c'est loin, hein, pour des gens de familles modestes, etc. Donc, et puis les écoles d'art déco ou d'art appliqué sont souvent payantes, hein, elles sont pas toutes publiques. Celles qui sont publiques sont difficiles d'accès. Et donc, c'est un détour explicite. Hein. Les parents disent, tu veux faire ça, bah, tu vas d'abord faire ça. Et puis après, on verra si tu as ton bac, si tu peux continuer, tu pourras être plus autonome, etc. Donc, il y a là aussi, hein, c'est assez intéressant de voir que ces filles sont bien dans une démarche professionnelle. Elle ne rêve pas du tout d'aller faire de l'histoire de l'art à l'université, hein, pour prendre évidemment une spécialité dont la dimension de distinction sociale est bien connue. Voilà. Alors il y a la question qui reste, c'est celle du décrochage et du turnover. Nous, on a fait une approximation, puisqu'on est revenu en première, donc on a interrogé tous les profs. Ils nous ont dit combien il leur restait d'élèves de l'année précédente, etc. Sachant que c'est assez quand même ça, tout à fait intéressant de voir à quel point les lycées professionnels oublient totalement et très vite les élèves de l'année précédente. Hein. Alors je ne stigmatise pas du tout, évidemment, les profs qui ont autre chose à faire. Je sais de quoi je parle. Mais c'est clair que l'institution, là-dessus, ne suit pas ses élèves. Mais enfin, en gros, donc, un turnover de 18%. Mais je dis bien un turnover, c'est-à-dire que ça se décompose en un certain nombre d'abandons, probablement, on ne sait pas exactement combien, mais mais l'autre partie, c'est beaucoup des changements, c'est-à-dire changements d'orientation. La logique des passerelles est très utilisée, très demandée. Ça ne me plaît pas, un élève interrogé, bon élève, un ancien bon élève de collège, un peu appartenant à la catégorie des, on va dire, des fumistes, c'est-à-dire qui ne travaille pas beaucoup, mais qui visiblement est à l'aise, qui me raconte que son père est climaticien, sa mère maître d'hôtel, bon, voilà, et il choisit le génie climatique, il a de bons résultats en maths, donc il rentre ça facilement en génie climatique, il s'aperçoit que ça ne lui plaît pas. Il fait une démarche auprès d'une école privée, ça ne manque pas, comme vous le savez, dans le Grand Ouest, et il sait déjà qu'en première, il va être pris dans une formation commerce qui lui convient mieux, donc il gère ça très très bien. Et beaucoup, les collègues nous disent, il y a pas mal d'élèves qui assez tôt, comme ça, s'organisent. Donc, ça n'est pas que de la départition, c'est aussi du turnover, et ces élèves qui partent sont souvent remplacés, en partie par des élèves qui viennent de seconde générale, ou des élèves qui ont déjà fait un CAP, ou des élèves qui changent d'orientation et qui préfèrent redoubler, etc. Donc il y a un gros mouvement, hein, ça c'est clair, dans ces secondes professionnelles. Alors je l'ai dit, donc les enseignants sont soumis par ailleurs à de fortes contraintes paradoxales, liées notamment au fait qu'ils ont à gérer une hétérogénéité des publics. Et puis, dernier point, ça, je n'ai pas encore les moyens de le mesurer spécialité par spécialité, je ne l'aurai sans doute jamais parce que notre enquête va s'arrêter et je ne pense pas que l'UNSA continuera de vous financer éternellement. Et comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup d'argent en ce moment à l'université. Si jamais l'IFE a des sous d'ailleurs, je ne sais jamais, j'en profite pour continuer. Je plaisante bien sûr. Il est très probable que une des caractéristiques bien connues des lycées professionnels, qui sont les écarts, qui étaient les écarts entre les disciplines, les métiers enseignés, selon que ces métiers sont très demandés, peu demandés ou pas du tout demandés par le public, sur des critères qui, vous le savez, sont un mélange de critères objectifs, les conditions de travail, la difficulté des conditions de travail, le marché de l'emploi, mais aussi parfois des critères très subjectifs, l'imaginaire des élèves sur tel métier, sur telle activité, etc. En tout cas, ces critères-là sont déterminants, puisque l'orientation en troisième, post-troisième, fonctionne comme un marché libre. Il n'y a plus de contraintes. Et donc, vous savez, les meilleurs élèves obtiennent facilement les métiers qu'ils demandent et pas les autres. Il est donc très probable que, selon les spécialités, la réforme a eu tendance à creuser les écarts. C'est-à-dire que là où les élèves n'obtiennent pas sont dans des spécialités, je pense dans le tertiaire à la comptabilité, je pense dans l'industrie à la chaudronnerie dont je ne me rappelle jamais le nouveau nom parce que j'ai un peu de mal, je sais pas, structure métallique, choses comme ça, et puis dans d'autres spécialités, dans le bâtiment, la maçonnerie, etc. Là on voit bien que la plupart des élèves y sont par des, même l'électrotechnique hein, maintenant qui est devenue une, qui quand j'étais PLP était le sommet de la hiérarchie, est aujourd'hui en bas de la hiérarchie. Là il est clair que les profs nous le disent, les élèves, beaucoup de turnover, beaucoup de départs, peu de motivation, élèves en difficulté. À l'inverse, quand vous allez dans les spécialités très demandées, alors pour les filles ça va être la coiffure, c'est les spécialités sanitaires et sociales, pour les garçons la mécanique auto, les systèmes automatisés, l'informatique, etc. Là vous avez des classes avec, d'ailleurs ça se voit concrètement, avec d'assez bons élèves très motivés, dont la majorité ont de fortes chances de non seulement d'avoir le bac, mais de réussir en bac pro. Donc ça, cette dimension qui embête beaucoup les chercheurs, hein. Parce que autant c'est très difficile d'avoir affaire à une institution qui est aussi divisée par discipline et par spécialité, on a du mal à en tirer des conclusions générales. Alors pour finir, interprétation, oui, je crois que je peux prendre encore, c'est bon, 5-10 minutes, oui, je vais pas être trop long. Alors interprétation en termes, on va dire plus sociologiques. J'ai indiqué en haut les quatre ouvrages qui sont pour certains récents et d'autres anciens, mais qui restent les références en matière d'interprétation sociologique du fonctionnement et de la place de l'enseignement professionnel dans le système. Globalement, traditionnellement, il y avait lieu de considérer que l'orientation LP se faisait par défaut. Et donc, c'était un processus de sélection sociale qui se mettait en œuvre. C'est la théorie de la production hein, de Pierre Bourdieu. Et que donc, finalement, le système scolaire, par divers processus que j'ai pas le temps d'expliciter ici, arrivait à préparer assez tôt l'orientation des élèves les plus faibles, majoritairement d'origine populaire, vers l'enseignement professionnel pour préparer la main d'œuvre qualifiée ou peu qualifiée dont le patronat capitaliste a besoin. Hein, c'est l'analyse classique. Je caricature un peu, évidemment, je vais un peu vite, mais en gros c'est ça. Avec quand même, à l'intérieur de cette analyse globale sur l'orientation par défaut, qui fait évidemment des enseignants les complices, conscients ou inconscients d'une sélection sociale, à l'intérieur de cette... je reviendrai sur quelques éléments, si j'ai le temps, qui permettent de critiquer cette analyse. Mais enfin, globalement, c'est l'analyse dominante, avec quand même une double interprétation. Les uns qui disent vraiment, de manière traditionnelle, c'est le sens du dernier livre que j'ai indiqué, celui de Paletta, sur la domination scolaire. D'ailleurs, le titre le dit bien. Avec, en gros, le fait qu'il y a là une opération de sélection sociale systématique et que le lycée professionnel est donc forcément un outil de reproduction au service des classes dominantes. Et des intérêts des employeurs. Une contre-interprétation, j'allais dire, dans le sens commun, c'est un peu le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, on peut le traiter de cette manière-là. Au contraire, des gens dont fait partie Aziz Jellab et dont je fais aussi clairement partie, qui disent, attention, cette analyse misérabiliste est tout à fait discutable, parce qu'en réalité, le lycée professionnel est aussi le lieu où se transmet une culture professionnelle et technique, dans laquelle beaucoup d'élèves se reconstruisent et dans lesquels certains élèves trouvent ensuite le moyen de poursuivre des études et d'aller vers des formes de réussite socio-professionnelle qui ne sont pas celles qu'offre l'enseignement général, qui sont moins nombreuses mais qui sont réelles. Et par ailleurs, on reproche aussi à cette première analyse de sous-estimer totalement le travail des collègues des lycées professionnels qui presque tous œuvrent en ce sens. Donc il y a ces deux interprétations discutables. Comment les positionner, ces interprétations, par rapport à la réforme du bac pro, sachant qu'il faut que j'aille vite, donc je suis obligé d'être un peu parfois simpliste. Ce qu'il nous semble à mon collègue Pierre-Yves Bernard et à moi, c'est que cette réforme a ouvert, pour les élèves j'entends, une opportunité aux familles populaires ou aux familles de classe moyenne dont les enfants réussissent assez peu ou mal au collège. Et les raisons de cet échec, ça il faudrait qu'on en parle, mais je le ferai pas aujourd'hui, ouvre une opportunité de faire ce que j'avais indiqué dans le titre d'une image précédente, c'est-à-dire de faire un compromis entre une inappétence scolaire, un goût pour des études technologiques, des études finalisées professionnellement, et un certain dégoût, une lassitude pour l'enseignement général, et une ambition scolaire, c'est-à-dire le désir d'obtenir un diplôme, parce qu'aujourd'hui, la nécessité du diplôme s'impose si on veut avoir une chance d'une réussite socio-professionnelle. Donc du coup, le fait que ce soit réduit à 3 ans, donc à la fois, bien sûr, l'égalité symbolique, mais aussi le fait que, concrètement, on peut aller au BTS en 3 ans, en évitant le STI, on pourrait parler d'une logique de, si vous voulez, d'une stratégie ou d'une tactique, là, après on peut discuter du sens des mots, de contournement ou d'évitement de la difficulté d'une seconde générale d'une part, d'une seconde et d'une première STI, mais avec l'idée qu'on va aller et qu'on va réussir à aller vers le BTS. Et en ce sens, on a la sensation, si vous voulez, que les familles populaires ou les familles de classe moyenne modeste dont les enfants ont cette voie se sont appropriées la réforme. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils se saisissent de cette chance pour donner une chance à leurs enfants, sans les obliger ou sans les contraindre ou sans qu'ils prennent le risque de passer par l'enseignement général. C'est-à-dire cette stratégie que Bernard Charlot appelait une stratégie de détour, qui existait, notamment du temps où vous aviez le passage de BEP en première d'adaptation, hein, où les meilleurs élèves de BEP passaient en première d'adaptation. On la retrouve, mais sans doute pour une proportion d'élèves beaucoup plus significative qu'auparavant. Et je l'ai dit, avec certains élèves qui explicitement évite le passage en seconde générale techno et en STI. C'est sans doute plus vrai pour les spécialités industrielles que pour les spécialités générales. C'est sans doute plus vrai dans notre région, qui a des spécificités particulières d'enracinement d'une classe ouvrière locale, comparativement à d'autres régions, comme notamment les grandes villes et la région parisienne, où là, les rapports avec l'enseignement professionnel sont plus complexes. Mais je pense que, de ce point de vue-là, on assiste à quelque chose d'intéressant, mais qui, évidemment, pose un certain nombre de questions. La première, c'est que va faire l'institution, et c'est ce qu'on essaye de savoir nous cette année, face à cette pression des élèves de bac pro qui arrivent beaucoup plus nombreux qu'avant, avec l'objectif d'aller en BTS. C'est clair. Comment va réagir l'institution? Est-ce qu'elle ouvre des places? Est-ce qu'elle établit des années propédeutiques pour aider les élèves à réussir? Que font les enseignants? Comment ils acceptent ce nouveau public qui ne l'accepte pas, etc. Donc là, il y a une vraie question. Et effectivement, on pourra éventuellement parler de leurre ou de tromperie sur la marchandise si l'institution fait barrage à ces demandes. Ça c'est clair. Pour les enseignants, évidemment, je l'ai dit, ce qui se pose essentiellement, c'est la transformation des pratiques professionnelles. Il y a une demande très forte aujourd'hui, je crois, qui émerge d'avoir les moyens de gérer cette hétérogénéité des publics, et notamment se pose la question de l'éventualité de la modularisation des formations, qui serait un moyen de répondre à cette nouvelle hétérogénéité des publics de lycées professionnels. Voilà, je vous ai dit, je crois, l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et donc, je m'arrête vraiment quasiment presque au moment prévu. Merci.